On t'aide, bravo avec ce nom à la fin. On va voir la signification de cela dans un instant. Il fait chaud ici, n'est-ce pas? Oui, on a besoin de l'aide de Dieu pour qu'on se concentre sur ce qu'il a à nous dire ce matin. Et si vous voyez votre voisin en train de... Voilà, vous pouvez aimer votre voisin comme vous-même avec les coudes. Ça va être utile pour chacun d'entre nous. Prions ensemble. Notre Père, nous venons devant toi humblement, sachant que tu es le Dieu de tout l'univers. C'est toi maintenant qui vas parler, et donc nous puissions faire silence devant toi et écouter ta voix. Et cela pour le nom et la gloire de Jésus. Amen. Qui va gagner? Qui va gagner? C'est une question qu'on se pose parfois pour le sport. Peut-être vous avez regardé hier soir le Champions League et vous étiez déçu que Liverpool a perdu contre le Real 3-1. Cristiano Ronaldo a encore gagné quelque chose. Et donc voilà, vous étiez triste peut-être ou heureux, je ne sais pas si vous êtes espagnol. Mais dans le sport, c'est important, mais finalement, ce n'est pas si important que cela. Qui va gagner la Coupe du Monde? Voilà, ça ne va pas changer grand-chose. Mais qui va gagner lorsqu'on parle de la politique? Ça, c'est autre chose quand même. Lorsqu'on voit ce qui se passe entre les États-Unis, la Corée du Nord, la Russie, on se dit, mais comment est-ce que ça va se terminer tout cela? Ça, c'est quand même important. Mais lorsqu'on parle de Jésus et ses ennemis, qui va gagner? Ça, c'est une question d'une importance cruciale, parce que la Bible dit que Dieu existe et qu'il a placé un roi sur le trône. C'est Jésus, son fils. Et ce fils va régner éternellement. Et les forces qui s'opposent à lui seront vaincues. Mais lorsqu'on regarde autour de nous, ce n'est pas si évident que cela, que Jésus est en train de régner, n'est-ce pas? Peut-être... Les États en Occident qui adoptent des lois qui visent à faire taire la voix du chrétien, comme on a vu en Irlande ce week-end avec la loi qui a permis l'avortement, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Cet autre État ailleurs dans le monde qui met les chrétiens à mort, des médias qui se moquent de la moralité des croyances bibliques, des athées scientifiques qui disent haut et fort que ce n'est pas possible d'être à la fois croyant et intelligent. On se dit, mais Jésus, est-ce qu'il règne finalement? Jésus et le peuple de Dieu sont plutôt sur la défensive, n'est-ce pas? On a l'impression. Est-ce qu'on peut vraiment savoir que Jésus règne et qu'il règnera éternellement? Et ça, ce n'est pas une question théorique non plus, parce que si Jésus va sûrement gagner, cela nous encourage de nous ranger de son côté, n'est-ce pas? Mais si on n'est pas sûr s'il va gagner, on sera moins sûr de vouloir vivre pour lui. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de tout donner pour Jésus? Et si vous êtes ici en tant que non-croyant, quelqu'un qui découvre le message de la Bible, c'est une question très très importante pour vous aussi. Quelle place Jésus a-t-il dans cet univers? Est-ce que vous allez le rencontrer après votre mort en tant que votre juge? Comment réagir face à lui? Mais dans ce chapitre 1 Samuel, nous allons voir que Jésus régnera, c'est certain. Dans ce livre de 1 Samuel, nous avons vu l'histoire de la royauté, n'est-ce pas? Ça commence bien avec Saül. Il a commencé bien, il a bien commencé, puis il a désobéi à Dieu. Et Dieu le rejette en tant que roi. Il choisit quelqu'un d'autre, David, le jeune berger. Et il a déjà été loin comme roi, mais un peu en coulisses. Pas publiquement. Et donc on attend le couronnement de David. On attend qu'il soit proclamé roi devant tout le monde. Et entre-temps, il doit souffrir. En attendant ce moment, il doit souffrir. Et c'est la même chose pour le Christ, n'est-ce pas? Avant d'entrer dans sa gloire, Jésus devait souffrir. Ces chapitres nous enseignent cela. Et nous allons voir trois choses dans ce chapitre. La première chose, c'est une délivrance divine, une délivrance divine. Si on peut projeter ça derrière moi, ce serait utile. Délivrance divine, les versets 1 à 14. Si vous avez la Bible devant vous, c'est très bien, 302 la page. Une délivrance divine, premièrement pour le peuple. au verset 1, on entend que les Philistins, les ennemis du peuple de Dieu, ont attaqué la ville de Keila et ils ont volé toute la moisson. C'est une situation catastrophique, n'est-ce pas? Vous avez récolté, vous avez ramassé le blé, vous l'avez mis dans les aides de battage, et puis les ennemis viennent tout prendre. Plus de vivres, plus de nourriture. C'est catastrophique. Et David, il a pitié sur cette ville, et donc il consulte l'Éternel, verset 2. Il consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins, tu délivreras Keila. » Il reçoit une promesse de la part de Dieu qu'il va délivrer la ville. Mais ces hommes de guerre, vous avez remarqué, verset 3, ne sont pas si sûrs que cela. Ils se disent, c'est quand même un petit peu chaud ici, déjà, en train de s'enfouir loin de Saül. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée d'aller à la rencontre de nos ennemis à Keila? Ne vaut-il pas mieux juste rester tranquille entre nous? Verset 3, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens de David lui disent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que sera si nous allons à Keila contre les troupes des Philistins? Et donc David, verset 4, il consulte encore une fois l'Éternel, probablement pour rassurer ses troupes. Et qu'est-ce que Dieu dit? « Lève-toi, descends à Keila, car je livre les Philistins entre tes mains. » Et fort de cette promesse, verset 5, David passe à l'action. Il alla donc avec ses gens à Keila, il se battit contre les Philistins, il emmena le bétail, il leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keila. David sauve la ville et il a la victoire sur ses ennemis. Et tout cela grâce à Dieu. C'est Dieu qui a livré les Philistins entre ses mains. Et Dieu a sauvé à travers le roi qu'il a choisi. Et nous pouvons déjà voir le parallèle avec nous, n'est-ce pas? Le message de cette section, ce n'est pas que nous pouvons remporter des victoires sur nos ennemis, mais c'est que Jésus, le roi ultime, a remporté la victoire ultime sur ses ennemis. Il nous a délivrés de notre péché, de notre rébellion contre Dieu, du jugement à venir et de tous nos ennemis. Parfois, les gens pensent que Jésus est juste un exemple à suivre dans la vie. Peut-être vous pensez cela vous-même. Ne serait-ce pas mieux si les gens agissaient comme Jésus? C'est ce qu'on pense parfois. Mais il est bien plus que cela. Il est un roi sauveur, comme David, un roi, mais un roi qui sauve, qui délivre les gens de leur rébellion contre Dieu, de l'enfer à venir. Quel sauveur! Mais ce qui nous surprend en 1 Samuel 23, c'est que ce roi sauveur David, il a besoin d'être sauvé lui-même. Verset 7, Saül est très content d'entendre que David est à Keila. Qu'est-ce qu'il se dit? Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Verset 8, et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keila et d'assiéger David et ses gens. Saül pense que c'est son jour de chance. David s'est enfermé dans une ville où il y a très peu de sorties. C'est très facile d'assiéger la ville. Il pense, ça y est, je l'ai, je vais le tuer facilement. Et donc, Saül se dirige avec toute son armée à la recherche de David. Maintenant, il prend les choses en main avec toutes ses troupes. David a vendu le mauvais dessein que Saül projette contre lui. Et de nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter l'Éternel. Il demande à Abiathar d'apporter l'éphod. Alors, si on avait un quiz après pour demander c'est quoi l'éphod, est-ce qu'on saurait répondre à cela? C'est un genre de chemise qu'a porté le grand prêtre dans le tabernacle. Et sur cette chemise, il y avait le pectoral, et sur cela, il y avait l'urim et le thummim. Et ça, c'était un moyen de recevoir de la part de Dieu des réponses précises à des questions précises, un moyen de consulter Dieu et d'avoir des réponses claires. Et on voit ici le plan souverain de Dieu, parce que verset 6, c'est qui apporte cela à David? C'est Abiathar qui, lorsqu'il s'enfuit, lorsque son père se fait tuer avec les prêtres à Nob par Saül et Doeg, l'éphod tombe entre les mains de David, le roi choisi. Donc même après cette catastrophe avec le massacre des prêtres, Dieu est en train d'agir pour protéger son roi choisi David. Et David pose deux questions à Dieu. Saül descendra-t-il, comme j'ai entendu? La réponse, oui, il descendra. Deuxième question, les habitants de Keïla, lorsque Saül arrive, me livreront-ils entre les mains de Saül? La réponse, malheureusement, oui, ils vont te livrer entre les mains de Saül. Un roi sauveur, rejeté par ceux qu'il est venu sauver. Est-ce là vous semble familier? Jésus, il est venu dans son monde, mais le monde n'a rien voulu avoir avec lui. Il est venu pour sauver, mais les gens qu'il est venu sauver l'ont rejeté. L'évangile de Jean dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et nous allons chanter tout à l'heure, en Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant. Oh, quel mystère, ce don d'amour, de sainteté haï par ceux qu'il vint sauver. Jésus a été rejeté par les gens qu'il est venu sauver. Quel péché, quelle rébellion de notre part, et quel sauveur qu'il est venu pour les gens comme nous. Et ici, dans ce passage, David connaît une délivrance divine. Au verset 13, on voit qu'il prend ses troupes et il s'en va loin de Keïla. Et verset 13, à la fin, Saül informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit à sa marche. David n'est pas livré entre les mains des Philistins. Et cela, la différence de notre Sauveur, qui a été livré entre les mains de ses ennemis jusqu'à la mort, jusqu'au fait de payer avec son sang sa vie pour nous. David était protégé de la mort, mais Jésus s'est donné jusqu'à la mort pour nous. Un roi sauveur qui a apporté une délivrance divine pour nous. Et en revenant à David dans ce chapitre, après la délivrance, dans quel état d'esprit pouvait-il être? Sachant que Saül le poursuivait à tout moment, ne sachant en qui il peut se confier, même son propre peuple l'a trahi. Et c'est justement à ce moment-là que Jonathan arrive avec un encouragement divin. Ça, c'est la deuxième chose que nous voyons ce matin. Un encouragement divin, versets 15 à 18. Un encouragement divin. N'est-ce pas formidable lorsque quelqu'un vient nous encourager, lorsqu'on est désemparé, on ne sait pas ce qu'il faut faire, et quelqu'un vient nous apporter de la consolation? Je me souviens, j'étais un peu découragé un soir, et il y avait un ami chrétien qui est venu chez moi avec de la glace, une bouteille de bière, avec des paroles encourageante. Et voilà, quel soulagement pour moi à ce moment-là. Et quel timing de la part de Jonathan. Lui, il arrive, je ne sais pas s'il avait de la glace, de la bière, mais il arrive pour fortifier la confiance de David, verset 16. C'est ça ce qu'il fait. Il se leva, il alla vers David dans la forêt, il fortifia sa confiance en Dieu. Littéralement, il a fortifié sa main en Dieu. Et au verset 17, on voit les paroles qu'il a prononcées pour apporter cet encouragement. Verset 17, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Il exhorte David à ne pas avoir peur, car Saül ne l'atteindra jamais. Dieu a un plan pour David, il régnera sur le trône, et c'est certain. Et cela veut dire que Saül ne l'atteindra pas. Et notons en passant que cette promesse n'empêche pas que David prenne la fuite devant Saül dans les versets à venir. Comme partout dans la Bible, la souveraineté de Dieu, le fait qu'il contrôle toute chose, il a un plan, il va réaliser ses plans, ne nous pousse pas à la paresse en disant « alors je vais rien faire ». Non, cela nous pousse à l'action, comme David. Et comme le Christ ici, le roi, régnera David, nous voyons aussi dans le Nouveau Testament que Jésus régnera, et cela éternellement. Il aura le dernier mot. En Luc 1, on lit qu'il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. En Apocalypse 11, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Jésus régnera, c'est certain. Et c'est cela qui peut fortifier notre main en Dieu. lors des moments de difficulté, de détresse, de découragement, de savoir que Jésus règnera. Et quelle humilité de la part de Jonathan ici, n'est-ce pas? Il fait alliance, verset 18, avec David. Et quel est le contenu de cet accord entre eux deux? Mais c'est le fait que c'est David qui va régner, non pas Jonathan. Jonathan, normalement, c'est lui qui devait hériter du royaume d'Israël. Mais il cède sa place au roi choisi par Dieu. Il reconnaît que c'est David le vrai roi. Et en quelque sorte, c'est ça, devenir chrétien. De reconnaître que Jésus est le roi de l'univers et qu'il est le roi de notre vie. J'aime l'histoire qu'on raconte parfois au propos de la reine Victoria, qui a régné au 19e siècle en Angleterre. On est un peu dans l'esprit de la famille royale à ce moment en Angleterre, avec le mariage qui a eu lieu, tout cela. Mais avant cette reine, bien avant, reine Victoria régnait sur 20% de la population mondiale, un quart de la surface de la Terre, une reine hyper puissante. Et on lui aurait demandé, qu'est-ce que tu ferais si tu rencontrais Jésus-Christ? Et qu'est-ce qu'elle a dit? J'enlèverai ma couronne pour la déposer à ses pieds. Elle reconnaît que c'est Jésus le roi, ultimement. Ce n'est pas elle. Et c'est ce que Jonathan fait envers David, mais c'est ce que nous devons faire, chacun d'entre nous, envers Jésus. De dire non, ce n'est pas moi qui ai le contrôle de ma vie. Ce n'est pas moi le maître de ma vie. C'est Jésus qui est le roi. De nous repentir, de nous soumettre à Jésus en tant que roi. Est-ce que vous avez fait cela? Et dans la réalité, Jonathan ne verra plus David à partir de cet instant. Il va mourir avant que David soit proclamé roi. Il ne verra pas le royaume de David. Mais parce qu'il est croyant, il verra le royaume du descendant de David. Le Christ, lorsqu'il reviendra dans la gloire et régnera éternellement. Alors peut-être la vie allait être un peu plus facile pour David désormais. Il a reçu une promesse qu'il va définitivement, certainement régner. Il ne doit pas craindre Saül. Et est-ce que Saül va abandonner sa poursuite de David? Parce qu'après tout, il sait que David va régner. Non, pas du tout. Et au dernier épisode de ce chapitre, nous voyons que Saül continue avec toute son armée, mais que Dieu intervient encore une fois pour protéger son roi. Ça, c'est la troisième chose que nous voyons ce matin. La protection divine, à partir du verset 19. La protection divine. Dans cette partie du chapitre, David est à deux doigts d'être capturé, tué par Saül et son armée. De nouveau, cela commence par des gens qui sont prêts à livrer David entre les mains de Saül. Cette fois-ci, ce sont des membres de la même tribu que David. Les Ziphites, ils vont spontanément... Ils vont, voilà, peut-être sortir le GSM, appeler Saül, fixer rendez-vous pour parler avec lui et dire « David est caché parmi nous. Et tout ce que tu veux dans la vie, c'est de trouver David. On le livre entre tes mains. » Et Saül, verset 21, il est reconnaissant. Qu'est-ce qu'il dit? « Oh, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez eu pitié de moi. » C'est terrible, n'est-ce pas? Quelqu'un qui se berce d'illusions en pensant que Dieu est de son côté, malgré le fait qu'il est en train d'aller à l'encontre du roi choisi par Dieu. Mais Jésus, il a aussi promis que l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Les gens vont s'opposer à Jésus et à son peuple, pensant qu'ils sont en train de servir Dieu. Et Saül veut des renseignements précis concernant l'emplacement de David, parce qu'il pense que David est fort rusé, mais Saül est sûr qu'il va le trouver. Et au verset 25, Saül part avec ses gens à la recherche de David. Et David en est informé, ses hommes. Et il se met en route pour échapper à Saül. Et au verset suivant, on dirait que c'est une scène poursuite d'un film, comme James Bond, ou quelque chose comme ça. On a Saül, le méchant, qui poursuit David, et David essaie de toutes ses forces de s'enfuir. Peut-être on entend la musique. En arrière-plan. La tension devient insoutenable au verset 26, n'est-ce pas? On voit les deux armées autour de la même montagne. Lisons le verset 26. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. On peut imaginer la scène. L'armée de David essaie de courir avec tous ses bagages. Il regarde terrifié par-dessus de l'épaule pour voir l'armée de Saül s'approcher de plus en plus d'eux. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils doivent continuer à courir, courir. Ça ne peut pas continuer définitivement. Ils sont épuisés. Verset 26 continue. « Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. » C'est fini, on dirait. Plus la peine d'essayer de fuir maintenant. Saül et son armée ont entouré David dans un mouvement de ténaille. Tout espoir est perdu. David ne sera pas roi. La promesse de Dieu était vaine. Dieu a fait ce qu'il pouvait, mais finalement, il n'a pas pu protéger son roi. Mais voilà, un retournement de situation remarquable dans l'histoire. C'est précisément au moment que David et ses hommes sont entourés que, verset 26, 27, lorsqu'un messager vint dire à Saül, « À toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. Ouh, quel soulagement! Les troupes de David y voient l'armée de Saül se retirer, disparaître. Quelle joie pour David et son armée, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le hasard, cela? Juste à ce moment-là, voilà, une armée est venue. Voilà, peut-être le hasard avec un D majuscule. C'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui a son plan, c'est son roi qui va régner éternellement sur le trône. Il fait toutes choses pour que son roi soit protégé. Et ils sont tellement dans la joie qu'ils nomment le rocher Sela Hamak le Kot, qui veut dire rocher des séparations. C'est là où David et Saül se sont séparés, parce que David a connu la protection en tant que roi choisi de Dieu. Mais tout au long de ce chapitre, on voit que c'est Dieu qui est aux commandes. On parle souvent de livrer quelqu'un entre les mains de quelqu'un d'autre. Dieu qui livre les Philistins entre les mains de David. Saül pense que Dieu livre David entre ses mains. David demande si les habitants de Keilah le livreront entre les mains de Saül. Les Ziphiens vont livrer David entre les mains de Saül. Mais c'est le verset 14 qui nous donne la réalité, nous explique la réalité, ce qui se passe en coulisses ici. Deuxième moitié du verset 14, si on peut voir ça derrière nous. Saül cherchait David toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. C'est Dieu ultimement qui protège son roi. C'est Dieu qui a envoyé les Philistins au bon moment. C'est Dieu qui maîtrise toutes choses et qui fait tout pour que son roi règne sur le trône. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Dieu fait toutes choses en vue du règne de son Messie Jésus. Jésus a aussi connu des délivrances miraculeuses, n'est-ce pas? Lorsque Hérode a voulu tuer tous les bébés, Jésus a pu s'échapper en Égypte pour survivre. Dans un autre épisode, en Luc 4, la foule veut lancer Jésus du haut d'une falaise. Et on lit dans le texte qu'il passe au milieu de la foule pour s'échapper. Et lorsqu'il se livre entre les mains de ses ennemis pour mourir à la croix, pour prendre la punition que nous méritions, la mort n'a pas eu le dernier mot. Acte 2 dit que c'était impossible qu'il soit retenu par la mort. Il est revenu d'entre les morts pour ne plus jamais mourir. Il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu son Père. Il règne maintenant. Jésus règne maintenant. Et il règnera éternellement. Qu'est-ce qui vous fait douter que Jésus règne maintenant, qu'il règnera éternellement? Est-ce que c'est le peu de gens dans ce pays qui croient en lui? Est-ce que c'est vous êtes seul dans votre famille à croire en Jésus? Seul au boulot, dans vos études? Ce chapitre doit nous encourager. Jésus règnera, Dieu va tout faire pour que son Messie règne éternellement. Nous voyons dans ce chapitre une délivrance divine. Jésus est un roi sauveur qui nous apporte la délivrance. Nous voyons un encouragement divin parce que c'est lui qui régnera. Ça nous encourage. Et la protection divine parce que Jésus est protégé pour régner sur son trône. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous alors? J'ai trois cas de figure. Est-ce que vous vous retrouvez dans un de ces personnages fictifs? Caroline, la chrétienne consacrée. Caroline, la chrétienne consacrée. Elle essaie de vivre pour Jésus, mais ce n'est pas facile. Mais quel encouragement pour elle de savoir que Jésus règne maintenant et qu'il règne éternellement. Tous les sacrifices qu'elle fait ne sont pas en vain. Lorsqu'elle s'efforce pour aller à l'église, lorsqu'elle est fatiguée, lorsqu'elle se propose pour aider à l'église, lorsqu'elle invite ses amis à entendre le message de l'évangile, lorsqu'elle aime son mari, lorsqu'il est fatigué et découragé. Le fait de savoir que Jésus règne nous pousse à vivre pour lui. Lorsqu'on se promenant dans le quartier, si on voit souvent les panneaux, les noms des rues, ils sont souvent des personnages qui ont joué un rôle dans la résistance au Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez vous promener après et voir cela. Ça me frappe toujours, ceux qui avaient le courage d'être dans la résistance et à quel point ça devait être plus facile de faire cela vers la fin de la guerre, lorsqu'ils savaient que la victoire était assurée pour les Alliés. Ils savaient que leur sacrifice n'était pas en vain. Non seulement que c'était pour la bonne cause, mais que leur cause allait gagner finalement lors du débarquement des centaines de milliers de troupes en Normandie. Il y avait beaucoup de gens qui ont travaillé pour aider cela dans la résistance parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, la victoire était assurée. Et pour nous, si nous connaissons que Jésus, son règne est assuré, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de nous sacrifier pour lui. De savoir qu'il aura le dernier mot, il va avoir la victoire. Nos sacrifices n'en sont pas en vain. On peut et on doit nous ranger du côté du roi. Mais deuxièmement, Timothée, peut-être il est un peu tiède dans sa foi. Il vient de temps en temps le dimanche, il fait bonne mine, mais il n'est pas intéressé vraiment à suivre Jésus. Mais pour lui, le fait que Jésus règne veut dire qu'il doit arrêter cette double vie. De dire peut-être de sa bouche que Jésus règne, mais de le nier dans sa façon de vivre, dans les priorités de sa vie. Il doit arrêter ce compromis et revenir et se soumettre à Jésus. Et pour le non-chrétien, Luc le non-chrétien, de savoir que c'est Jésus qui aura ultimement le dernier mot dans ce monde. Cela doit nous faire réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui courent les 20 km actuellement. Je ne sais pas s'ils ont terminé ou pas. Mais c'est quelque chose qui m'a frappé lorsque je l'ai fait. On est rue Royale. On court tous des milliers de personnes ensemble. Et devant nous, c'est le palais royal, le palais de justice. Le palais de justice devant nous. Les milliers de personnes qui courent vers le palais de justice. Et c'est ça ce que l'image que la Bible nous présente le dernier jour, le jour du jugement. Cela viendrait des milliers, des milliers, des milliers. Toute personne qui a jamais vécu sur cette terre, on va vers le jugement. Et si c'est Jésus qui est assis sur le trône, et nous on a vécu notre vie en le gardant à distance, en vivant pour autre chose, en ne pas acceptant son sacrifice à la croix pour nous sauver. Quelle chance est-ce qu'on a de survivre à ce moment-là? Aucune. Nous devons nous soumettre à ce roi avant qu'il ne soit trop tard. Jésus régnera certainement, éternellement. Comment est-ce que cela va changer votre vie? Prions ensemble. Notre Père, nous te louons pour le Seigneur Jésus. Merci parce que tu fais tout et tu opères en toutes choses pour que Jésus règne. Merci parce qu'il règne dès maintenant et merci parce qu'il règnera éternellement. Et nous prions que nous puissions nous rendre compte de plus en plus de cette réalité, que nous puissions nous ranger de son côté entièrement, ne pas écouter les voix des autres qui nous disent que ça ne va pas la peine de suivre Jésus. Et si nous ne sommes pas encore croyants en Jésus-Christ, que nous puissions voir dans quel danger nous nous situons actuellement. Nous courons à notre perte. Et que nous puissions nous soumettre à lui avant qu'il ne soit trop tard. Et si nous sommes déjà croyants, que nous puissions vivre de tout notre cœur pour ce roi sauveur qui nous a apporté la délivrance par sa mort à la croix. Et ce roi qui va régner éternellement. Et nous t'en prions en son nom. Amen.